Bonjour, dans une heure, le soleil se lève à Riyad, en Arabie Saoudite, où il est 5h, 4h, ici à Paris.
Théo Renaudon.
Et c'est l'heure du journal. Donald Trump dans l'avion direction l'Arabie Saoudite où il débute une tournée dans les pays du Golfe. Le président américain a également, on va le voir, quelques intérêts personnels dans ces pays. La Syrie félicite la Turquie et son peuple après le dépôt des armes du PKK. Nous verrons en quoi c'est une bonne nouvelle pour Damas. Et puis, c'est un peu la fête du business en Afrique. La 12e Africa CIO Forum a commencé à Abidjan. Donald Trump en visite dans les pays du Golfe à partir de ce mardi. Visite d'affaires en Arabie Saoudite, puis au Qatar et enfin aux Émirats Arabes Unis. Il s'y rend en tant que président américain, mais sa société familiale a ses intérêts, a ses propres projets. Alexis Bédu, la famille Trump mise sur le tourisme de ses monarchies pétrolières.
On a pu voir Eric Trump, un des fils du président à Dubaï fin avril. Pas pour des vacances, mais plutôt un voyage d'affaires pour promouvoir sa crypto-monnaie USD One. Il était invité d'honneur d'une conférence où le fonds émirien MGX a annoncé qu'il utiliserait USD One pour investir 2 milliards de dollars dans la plateforme de crypto-actifs Binance. La Trump Organization a aussi récemment dévoilé le gratte-ciel d'un milliard de dollars qu'elle compte bâtir à Dubaï et les appartements pourront être achetés en crypto-monnaie. Et également signé le mois dernier un contrat pour la construction d'un golf et des résidences de luxe au Qatar. Ajoutez à cela une tour Trump à Jeddah en Arabie Saoudite et un autre projet immobilier à 4 milliards de dollars à Oman. Officiellement, Donald Trump ne gère rien, mais il est toujours actionnaire du conglomérat. Aucun conflit d'intérêts assure la Maison Blanche. Sa porte-parole Caroline Leavitt assure d'ailleurs que Donald Trump perd de l'argent en étant président.
D'ailleurs, le président américain risque de s'inviter jeudi dans la possible rencontre Volodymyr Zelensky-Vladimir Poutine à Istanbul pour parler direct entre Russes et Ukrainiens qui doivent avoir lieu. Pour rappel, le président ukrainien Volodymyr Zelensky attend de pied ferme son homologue russe Vladimir Poutine pour négocier la fin de la guerre. Moscou s'est refusé à dévoiler la composition de sa délégation pour le moment. Le PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, annonce ce lundi sa dissolution sous sa forme actuelle. Il met fin à 4 décennies de lutte armée contre l'État turc. Dans un communiqué, le PKK affirme avoir accompli sa mission historique. La question kurde peut désormais, selon eux, être résolue par une politique démocratique. Décision prise dans un congrès qui s'est tenu au fin fond d'un tunnel dans le nord de l'Irak, plusieurs mètres sous terre, pour échapper aux bombardements turcs qui continuent sur les positions du PKK. C'est Guerrieros qui dépose les armes. Bonne nouvelle pour le voisin syrien, le ministre des Affaires étrangères syrien a félicité le gouvernement turc et son peuple pour l'accord avec le PKK, un moment charnière pour la région. Ablajunaydi.
Le désarmement du PKK n'est pas encore une réalité. Le processus prendra du temps. Mais pour Assad el-Shibani, le ministre syrien des Affaires étrangères, en visite à Ankara en même temps que son homologue jordanien, la dissolution du groupe actif depuis 4 décennies est un moment historique.
Cette étape représente un moment charnière, non seulement pour la sécurité intérieure de la Turquie, mais aussi pour la stabilité de notre région dans son ensemble. Nous redisons aujourd'hui notre engagement à renforcer la coordination sécuritaire et militaire avec la Turquie et la Jordanie. Cette coopération n'est plus une simple option, c'est une nécessité pressante. Nous travaillons de concert pour affronter les menaces transfrontalières, surveiller les groupes armés, empêcher l'infiltration des extrémistes sur nos 2 territoires.
La stabilisation des frontières est un enjeu de taille pour le gouvernement syrien, d'autant plus que les défis s'accumulent. Négociations complexes avec les forces démocratiques syriennes dans le nord-est, affrontements ethno-confessionnels dans l'ouest et le sud du pays, incursions israéliennes et attaques de cellules de l'État islamique, la Syrie peine à rétablir sa pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire.
Le Premier ministre indien Narendra Modi prévient le Pakistan. Toute nouvelle attaque terroriste aura sa réponse ferme. Tensions diplomatiques toujours vive entre les deux pays, 3 jours après le cessez-le-feu, qui a mis fin à la confrontation la plus grave entre Inde et Pakistan depuis des décennies. Le Kenya sollicite l'aide de la République dominicaine pour mieux agir en Haïti. Nairobi demande à Saint-Domingue un soutien accru en matière de renseignement. Le pays d'Afrique peine, c'est peu de le dire, à contenir la violence des gangs en Haïti. 1 à 2500 soldats kényans sont déployés dans une mission soutenue par la France, le Canada et les États-Unis. Comment lutter contre la soumission chimique ? La soumission chimique, c'est-à-dire droguer une personne à son insu pour abuser d'elle sexuellement. En France, 2 parlementaires ont remis ce lundi au gouvernement un rapport, 50 recommandations pour lutter contre ce fléau, renforcer la prévention et davantage accompagner les victimes dans leurs soins qui font partie. Tout ça fait partie des mesures conseillées. Plus de 100 personnes ont été entendues pour élaborer ce texte. Parmi elles, des victimes et des proches de victimes présentes à la remise du rapport. Elisa Savat y était.
Pour toutes les victimes présentes dans la salle, il était urgent d'agir. Adèle se remet toujours de ce qui lui est arrivé il y a 6 ans. Aujourd'hui, elle a l'impression d'être entendue.
Ça a été un immense soulagement de pouvoir témoigner dans le cadre de cette mission, d'être mis en lien avec d'autres victimes, avec potentiellement des avocats spécialisés dans le domaine.
Une meilleure prise en charge et le plus tôt possible après un acte de soumission chimique, c'est primordial pour Hélène et cela passe par...
Pas de file d'attente pour les prélèvements, que ce soit immédiatement fait et que, évidemment, on ne refuse pas à une victime de faire ses prélèvements, qui est dépôt de plainte ou pas.
Prévenir et former les citoyens au risque de la soumission chimique, c'est un point essentiel du rapport pour Aurélie.
La campagne de sensibilisation est hyper importante. Je trouve ça fondamental pour que justement, au niveau du grand public, on soit tous alertés, pour qu'on soit plus solidaires, attentifs à notre voisine, à notre voisin, en milieu festif, en milieu intime, familial. Que la soumission chimique soit quelque chose qui soit vraiment commun et qu'on l'ait en tête.
Autre formation indispensable, celle du personnel soignant et policier, peut sensibiliser à ce fléau. Une autre des 50 recommandations visant à lutter contre la soumission chimique.
Sarcophages, bijoux et fragments de temples antiques. L'Égypte annonce récupérer 25 pièces d'antiquités rares qui se trouvaient jusqu'ici aux États-Unis, artefacts dont on ne sait pas comment ils sont arrivés sur le sol américain. De nombreuses pièces néanmoins ont été pillées durant le printemps arabe de 2011 et se sont ensuite retrouvées sur le marché international. Depuis 10 ans, l'Égypte affirme avoir récupéré 30 000 objets de ce type. Ce lundi s'est ouvert à Abidjan la 12e édition de l'Africa CIO Forum, un forum qui réunit chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs politiques africains. Cette année, 3 000 participants réunis pour repenser les relations entre secteur privé et secteur public. Devant un parterre de chefs d'État et de patrons venus de tout le continent, le président ivoirien Alassane Ouattara a lancé les débats en reconnaissant les difficultés à développer les échanges entre les pays africains. Julien Clémenceau.
Le constat du chef d'État ivoirien est franc. Ces derniers mois, le projet de SLECAF n'avance plus et il faut lui redonner une impulsion, sans dire si c'est aux politiques de reprendre la main.
Évidemment, afin d'augmenter la part des économies africaines dans la création de valeur ajoutée au niveau mondial, nous devons œuvrer au renforcement des échanges intra-africains. Sur ce point, nous devons faire plus de progrès. La SLECAF a bien démarré, mais malheureusement, les résultats sont encore faibles.
La première journée du forum a aussi été marquée par le panel réunissant les présidents mauritaniens, sud-africains et rwandais. Devant une salle pleine, Paul Kagame et Cyril Ramaphosa ont notamment insisté ensemble sur le besoin du continent d'élaborer ses propres solutions au-delà des influences extérieures. Un échange pendant lequel les deux chefs d'État ont directement évoqué le conflit actuellement en cours dans l'est de la RDC, appelant à poursuivre les discussions pour reconstruire la paix. Julien Clémenceau, Abidjan, RFI.
Et puis quoi de mieux que de regarder du basket commenté par Michael Jordan. La légende américaine rejoint le diffuseur NBC en tant que contributeur spécial pour la prochaine saison de NBA. Plus de 22 millions de spectateurs à travers le monde regardent régulièrement le tournoi de basket américain. C'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Prochainement, RFI Matin. En attendant, vous pourrez retrouver toute l'actualité sur notre site rfi.fr.